Attention, attention, RH moins 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1, la radio sauvage.
0.
Quelle heure est-il ?
6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures.
Avant minuit.
Yes, man.
C'est 7h minuit, alors je suis pas bon.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab,
la radio sauvage.
Mardi 9 décembre 2025, vous nous écoutez sur Syllab et Radio Boa aujourd'hui, merci à vous. Ça va l'équipe, bien remis des trans musicalement. On est là. Dites-moi, vous êtes quasi tous bretons ou bretonnes autour de la table. Est-ce que vous avez environ 500 000 euros sous le coude là ?
Ouais,
c'est grave. Je m'en doutais. Ah, ça paye bien, service civique. Je dis ça, c'est pour sauvegarder votre patrimoine. Je passe juste l'info, je vous explique. Un tableau de Paul Gauguin vient d'être mis en vente aujourd'hui chez Art Curiel. Estimation entre 500 000 et 700 000 euros. Donc, il a été peint en 1889 au Poullu sur la commune de Cloire-Carnouëtte. Désolé, c'est mon accent savoyard qui parle. Dans le Finistère, et figurez-vous que le public ne l'a pas vu depuis plus de 40 ans. Depuis 1983 exactement. Le nom du tableau, c'est Danse Bretonne et on y voit des danseurs et danseuses en pleine gavotte. Au départ, il servait de déco sur une cheminée d'une buvette. Il a été vendu par sa tenancière dans les années 20 à la fermeture du RAD. Alors, toujours intéressé ?
Oui, pour décorer la radio.
Ouais. Ah ouais, pas mal.
La partie
en studio,
ça ira bien aussi.
Vendu. Tout de suite, le flash de Roman.
7 avions militaires russes et 2 avions chinois ont été repérés aujourd'hui dans la zone d'identification de défense aérienne de la Corée du Sud. Selon l'armée de Séoul, citée par l'agence de presse Yonhap, ces appareils ont été détectés avant d'entrer dans la zone. Ils l'ont traversé plusieurs fois avant de repartir au bout d'une heure. Aucun d'eux n'a violé l'espace aérien sud-coréen. L'état-major interarmé de Corée du Sud a rapporté dans un communiqué avoir déployé en urgence des avions de combat pour prendre des mesures tactiques en prévisant de toute éventualité. Un putsch déjoué au Bénin grâce à la France, l'Élysée a révélé aujourd'hui que Paris avait fourni ce week-end un appui en termes de surveillance, d'observation et de soutien logistique. Ce soutien a été fourni aux forces béninoises à la demande de Cotonou. Macron a également coordonné des échanges d'informations avec les pays voisins alors que les autorités béninoises faisaient face à une attaque menée par un groupe de militaires mutins. Estelle revient sur les faits.
Dimanche 7 décembre à 7h30, le Bénin échappe à une tentative de coup d'État. Au matin, des rafales retentissent près de la résidence du président, Patrice Talon, à Cotonou. Ils tentent d'assiéger la résidence présidentielle, mais ils sont repoussés par la garde républicaine. Des affrontements violents ont lieu, faisant des victimes des deux côtés. Le gouvernement fait aussi état du décès de l'épouse du général Bertin Bada. Elle a été mortellement blessée dans un autre affrontement survenu quelques heures plus tôt. Avant de se retrancher dans une base militaire à Tocbin, 8 militaires ont pris le contrôle de la télévision nationale, la SRTB. En t-shirt, gilet pare-balles et fusil en bandoulière, leur porte-parole apparaît à l'antenne pour annoncer que le comité militaire pour la refondation avait démis le président de ses fonctions et placé le lieutenant-colonel Pascal Tigri à sa tête. Après cette déclaration, la situation reste confuse autour du siège de la SRTB, dont le signal a été rapidement coupé. Une douzaine de soldats mutins ont été arrêtés, dont les auteurs du putsch.
Ce coup d'État a été déjoué en quelques heures seulement, c'est bien ça Estelle ?
Tout à fait Romane. Peu après, le ministre de l'Intérieur, Alassane Seydou, a annoncé que le coup d'État avait échoué. Il assure que la riposte des forces armées béninoises a permis de garder le contrôle de la situation et de faire échec à la manœuvre. Dimanche soir, Patrice Talon est à son tour apparu à la télévision. Il a invité les Béninois à vaquer sereinement à leurs occupations, confirmant que la situation était totalement sous contrôle. Ce putsch a été déjoué rapidement grâce au soutien international. Dans le cadre de la CDAO, le Nigeria et la Côte d'Ivoire ont immédiatement réagi. Dimanche matin, les chefs d'État ouest-africains multiplient les appels et réunions. Le ton est ferme, on doit y aller. Le président de la CDAO, Julius Maada Bio, martèle « C'est une question de crédibilité. Si nous n'intervenons pas cette fois-ci au Bénin, c'en est fini pour notre organisation. » Une force régionale est constituée donc, rassemblant des troupes du Nigeria, du Ghana, de la Côte d'Ivoire et de la Sierra Leone. La CDAO a annoncé dimanche soir le déploiement immédiat de ses troupes pour appuyer le gouvernement et l'armée républicaine du Bénin et préserver l'ordre constitutionnel. La France a quant à elle fourni un soutien en matière de surveillance, observation et logistique.
Mais quelles sont les motivations de ce putsch ?
Des raisons politiques avant tout. La présidentielle d'avril 2026 occupe tous les esprits au Bénin. Patrice Talon prévoit de se retirer après deux mandats de 5 ans, comme le prévoit la Constitution. Son dauphin, le ministre des Finances Romuald Ouadini, fait figure de grand favori. Le principal parti d'opposition ayant été écarté du scrutin faute de parrainage, Ouadini ne devrait affronter qu'un seul adversaire. Un opposant qui se présente lui-même comme modéré. Dans ce contexte politique verrouillé, les mutins menés par le lieutenant-colonel Pascal Tigri disent vouloir refonder le pays. À la télévision nationale, ils annoncent la suspension de la Constitution, la dissolution des institutions et des partis politiques et la fermeture des frontières. Ils justifient leur coup de force par la gouvernance de Patrice Talon et la privation du droit de choisir librement son candidat, mais aussi par des lois chrysogènes, ainsi que par l'emprisonnement ou l'exil forcé de plusieurs citoyens. En effet, Patrice Talon est accusé par ses détracteurs de durcir son pouvoir dans un pays longtemps considéré comme un modèle démocratique. Les mutins, en partie issus de la garde nationale, dénoncent également la dégradation de la situation sécuritaire dans le nord du pays, la négligence envers les soldats tués au front et leurs familles, ainsi que des promotions injustes au sein de l'armée.
Cette tentative de putsch au Bénin s'inscrit dans un contexte régional particulièrement tendu. Il intervient quelques jours seulement après un coup d'État en Guinée-Bissau et dans une zone où plusieurs pays voisins, le Mali, la Burkina Faso, Niger et Guinée, sont désormais dirigés par des régimes militaires. 67 journalistes ont été tués dans le monde cette année en raison de leur métier. C'est le chiffre publié aujourd'hui par Reporters sans frontières dans son bilan 2025. Un chiffre couvrant la période du 1er décembre 2024 au 1er décembre 2025. Selon l'ONG, 43% de ces journalistes ont été tués dans la bande de Gaza, sous le feu des forces armées israéliennes. Les deux autres pays les plus dangereux sont le Mexique et le Soudan. Les journalistes y sont principalement ciblés par les cartels, le crime organisé et les forces armées. Autre chiffre alarmant, 503 journalistes sont actuellement détenus dans le monde, 20 sont retenus en otage et 135 sont portés disparus. Pendant que son mari fait des bains de foule en Chine, Brigitte nage en plein scandale. Une vidéo publiée puis retirée lundi par le magazine Public a fait le buzz. On y voit Brigitte Macron insulter des militantes féministes de sale conne. Elle exprime aussi son soutien à l'humoriste Harry Habitant, visé par des accusations de viol. Samedi dernier, 4 militantes féministes avaient interrompu son spectacle. Les critiques se multiplient, autant du côté des associations féministes comme Nous Toutes, avec le lancement du hashtag Salcon. Sur le plan politique aussi, les accusations fusent, provenant des Républicains, des écologistes et de la France insoumise. Place au premier grand vote budgétaire pour le Premier ministre Sébastien Lecornu. Après plusieurs semaines de discussion, le projet de loi de financement de la sécurité sociale est soumis au vote aujourd'hui au vote de l'Assemblée nationale. Les députés se prononcent d'abord sur la partie dépenses, avant un vote solennel sur l'ensemble du texte en fin de journée. Un scrutin sous haute tension, avec une issue très incertaine. Une partie de la droite s'oriente vers l'abstention, soit les Républicains et le groupe Horizon. Les socialistes devraient voter pour, tandis que plusieurs groupes restent divisés, comme les écologistes. Si le texte est adopté, le Sénat disposera de 10 jours pour se prononcer. Mercredi 3 décembre, Maëlle Decalan, président du conseil départemental du Finistère, présente sa politique très controversée sur le RSA devant 200 chefs d'entreprise. Problème, alors que des journalistes de Ouest-France et du Télégramme ont pu assister à la réunion, deux journalistes du média indépendant d'enquête Pleine ont été refoulés. Pire, une vidéo brutale atteste de la violence des vigiles envers les journalistes à l'extérieur du bâtiment, alors en train de filmer une manifestation contre la politique de Maëlle Decalan. Sylvain Ernaud, cofondateur de Splone, a répondu aux questions de l'enquête à ce sujet.
Du coup, nos journalistes avaient en amont prévenu qu'ils souhaitaient assister à cet événement. En fait, une prise de parole du président du conseil départemental du Finistère pour faire la promotion de sa politique sociale en matière de RSA aux chefs d'entreprise du département. Et lorsque mes collègues se sont présentés à l'accueil, ils ont été refusés pour des raisons pour nous qui nous paraissent tout à fait, tout à fait dilatoire, puisqu'il y a eu une différence de traitement entre les journalistes. On a des faits, on a des journalistes qui peuvent assister à l'expression d'un chef d'exécutif départemental dans l'exercice de sa fonction, de son mandat. Il a été élu par les Finistériens, il doit rendre des comptes auprès des Finistériens et la presse doit pouvoir l'entendre s'exprimer. Et ça fait surtout des journalistes qui ne peuvent pas pratiquer leur métier. Sur le parking de cet événement, mon collègue Christine Falleron, qui filmait avec son matériel professionnel la manifestation qui se tenait devant le bâtiment, a été dans un premier temps empêché de filmer par un agent de sécurité avec une lampe torche, et celui-ci a tenté de saisir son matériel, créant en fait l'événement, créant l'incident. Ce qui nous importe ici, c'est de se demander pourquoi ce traitement différencié. Splan a publié récemment une enquête sur les allocataires du RSA, en particulier les paysans du département, donc en fait la mise en pratique de cette fameuse politique RSA dont Maëlle de Calan se vante devant le patronat finistérien. Ce sont des difficultés de plus en plus importantes de notre équipe à accéder à des documents administratifs qui devraient être accessibles à toutes et tous. En tant que journaliste, on est les yeux, les oreilles des citoyens. On est là pour contrôler ce qui se pratique, le bon usage de l'argent public, la probité des élus. Et quand on exerce ce droit, on nous oppose de plus en plus systématiquement des obstacles. Donc, il y a une difficulté aujourd'hui, pas forcément physique, mais accéder à des informations.
C'était bien au micro de l'AFKEN et pas de l'enquête. Pour Sylvain Ernaud, discréditer la presse est un bon moyen de renforcer la désinformation et les risques de propagande. Pour l'instant, aucune action judiciaire n'est envisagée par Splan. De son côté, le syndicat national des journalistes a communiqué dimanche son soutien aux médias en déclarant « Le SNJ demande au conseil départemental du Finistère de mettre un terme à ces pratiques et s'élèvera toujours contre toute menace, intimidation, agression verbale, voire physique, à l'égard des journalistes dont la mission est d'informer les citoyens ». Trois hommes interpellés après les fusillades survenues à Villejean à Rennes. Vendredi et samedi dernier, aux alentours de 19h, deux séries de tirs ont éclaté près de la place Kennedy. Le secteur est connu pour être un point de deal de cocaïne. Samedi, les investigations ont mené à un fusil de canon scié et à l'interpellation d'un premier individu. L'enquête avance. Hier, trois autres personnes ont été arrêtées dans une voiture volée avec une arme à poing. La voiture aurait été utilisée lors des tirs du week-end. L'enquête se poursuit sous l'égide de la division de la criminalité organisée et spécialisée de Rennes. Aujourd'hui, nous sommes le 9 décembre et on ne fête pas un, mais bien deux anniversaires. Celui de notre collègue Carla.
Happy birthday, Carla.
Bon anniversaire, Carla. Et celui de la Journée mondiale de la laïcité, une date symbolique qui marque l'anniversaire de la loi de 1905 sur la séparation des églises et de l'État. À Rennes, pour l'occasion, de nombreux événements sont proposés autour de la laïcité. Table ronde, débats, expositions, rencontres, jeux de pistes. Et puis, un super plateau radio en compagnie des élèves du lycée Descartes. Ils et elles prendront la parole pour parler de liberté d'expression, de neutralité vis-à-vis des religions, mais aussi de liberté et d'égalité pour toutes et tous. Pour l'occasion, on sera jeudi à la Maison des associations de Rennes pour un plateau spécial organisé en partenariat avec le Club de la presse de Rennes et le lycée René Descartes.
Et oui, ne manquez pas ça, ce sera à 18h sur le créneau de 6h avant minuit. Merci beaucoup Roman pour ton flash. Le micro passe à l'enquête, à l'AFKEN.
Quelle heure est-il ?
6h.
Minuit, pourquoi ?
Syllabe.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
Et à minuit, plus personne.
6h avant minuit.
Et ce soir, nous parlons cinéma, sexualité avec un S et identité avec un S de genre. Chaque décembre, Rennes reçoit le festival Regard, festival de cinéma et de culture queer. Cette année, c'est du 10 au 14 décembre. Pour nous accompagner autour de cette table, Nadine Patry, au chaud dans son écharpe blanche, membre de l'équipe organisatrice et programmatrice de Regard. Bonsoir.
Bonsoir.
Et à ses côtés, coiffée d'une super wolf cut, Delphine Arnoux, également membre de l'équipe organisatrice du festival. Bonsoir.
Bonsoir.
Pour commencer, est-ce que vous pourriez nous présenter le tout jeune festival Regard en quelques mots ?
Alors effectivement, il est tout jeune parce qu'on a eu la première édition l'année dernière. Et donc cette année, c'est la deuxième session. On l'a tourné autour, l'essence de cette deuxième session est tournée autour du cinéma queer et de ce qu'on a appelé « trouver sa place ». Parce que ça n'a jamais été une évidence pour les personnes LGBTQIA+, de trouver leur place. Trop souvent reléguées dans des normes, dans des marges invisibilisées, caricaturées ou réduites au silence. Et donc en fait, le cinéma queer a réinventé un petit peu tous les langages qui permet de développer des récits différents, des familles différentes et d'afficher un petit peu différence de culture qui est la culture queer. Donc le festival est né de là et l'objectif est de pouvoir faire partager au plus grand nombre possible de personnes ce cinéma pour non seulement voir des films mais aussi aider à faire des rencontres, à dialoguer, à discuter, à échanger. Et voilà.
Et juste avant d'approfondir justement sur ces valeurs et sur cette transmission et cette mise en avant de la culture queer, il y a juste quelque chose qui saute aux yeux, l'orthographe du nom du festival. Pourquoi regard avec un S entre parenthèses après le regard?
Ça a toujours été la question. Mais pourquoi on a mis les parenthèses? Parce que justement, en fait, on a nos vies entre parenthèses, mais elles ne le sont pas non plus complètement. Le regard était quelque chose d'important, le regard qu'on a sur les choses, le regard qu'on a sur soi, le regard des autres sur soi. Donc ce mot-là était important pour nous. Mais on voulait le mettre au pluriel. Et on s'est dit, ce pluriel et cette diversité qui existe dans la communauté, elle est importante à marquer, donc on l'a mis entre deux parenthèses. Voilà.
Et donc c'est ISKIS, ce centre LGBTI+, de Rennes, qui porte ce projet. Et là, je me permets de m'emparer de vos mots sur le site de festival. Vous y écrivez, et vous l'avez abordé tout à l'heure, « Au cinéma comme dans la vie, trouver sa place n'a jamais été une évidence pour les personnes LGBTQIA+, trop souvent reléguées aux marges, invisibilisées, caricaturées ou réduites au silence. » Regard naît donc de cela, d'une urgence, d'un besoin de mettre un petit peu plus, un peu mieux la culture queer sous les projecteurs.
Oui, tout à fait. En fait, exister, c'est aussi ça. C'est exister au cinéma, sur des écrans. Exister dans la vie comme au cinéma, ça nous paraissait important parce que les représentations qu'on a sont différentes, diverses et très très variées. C'est ce qui fait leur richesse. Et donc voilà, c'était une manière de faire connaître cette culture-là et aussi de partager à la fois dans la communauté, mais aussi à toutes et à tous, cette richesse de représentation. Et ça nous semblait essentiel aujourd'hui dans le contexte un peu difficile parfois, anti-wokiste, anti-ceci, anti-cela et anti-LGBT.
Et... pourquoi du coup le choix du cinéma pour mettre en avant cette culture? Parce qu'il y a aussi la photo, la musique. Est-ce que vous pensez que le cinéma, ça peut aider à trouver sa place, comme vous dites, que le cinéma, c'est aussi une arme de résistance?
Le cinéma, ça a toujours été un art plutôt populaire. Et du coup, ça fait beaucoup, ça fait sens de l'utiliser et de s'en emparer pour mettre en avant... nos différents regards et notre culture.
Et justement, en parlant cinéma, place à la programmation. Avant d'approfondir sur les projections à venir, une parenthèse. D'une générosité et d'une sincérité artistique absolue, ce show queer et électro est un moment de grâce et de fête qui s'adresse à tous dans un esprit d'ouverture et de bienveillance. Je parle bien sûr de Villain Tuff, que vous présentez ainsi et avec qui vous collaborez pour cette seconde édition. Regard, ce n'est pas que du cinéma donc, c'est aussi des rencontres, des conférences, des expositions, des soirées.
Oui, tout à fait. En fait, on va faire la teuf avec Vienne Teuf, ça c'est clair. Le vendredi soir, c'est une grosse soirée, salle de la Cité, où on attend 600 personnes. Et on se prépare à ça. Effectivement, la culture queer, c'est pas que le cinéma. C'est aussi une exposition qui est au Café des Champs Libres en ce moment, de Anne Blery. C'est aussi de la musique avec des soirées, des quiz cinéma qui vont se passer au Café des Champs Libres. C'est aussi des conférences dont Delphine peut parler plus précisément.
Oui, c'est ça, deux conférences. Donc, une sur le cinéma lesbien qui aura lieu à l'Arvor le jeudi à 19h. Et il y aura aussi une conférence sur la représentation et l'histoire du drag dans le cinéma avec Mouni, une artiste drag. Et ce sera ça, par contre, au TNB.
Et justement, pour réapprofondir sur le cinéma et le TNB, pour ouvrir ce festival, le TNB diffuse demain à 19h la Misteriosa Mirada del Flamenco, un western chilien qui se déroule dans les années 80 et qui aborde la discrimination queer, mais aussi le soutien en communauté. Vous pourriez nous en dire quelques mots sur cette projection, sur ce film ?
Alors, c'est un très beau film voilà, qui parle aussi de faire famille autrement. Donc c'est, comment dire, je peux vous le résumer un peu peut-être.
Complètement.
Donc on est dans un village minier au Chili et on a une communauté de travestis, c'est comme ça qu'ils se nomment. Et on suit cette famille et cette vie à travers les yeux d'une petite fille qui est la fille de cette... comment dire, cette communauté un peu marginalisée à part. Et à travers certaines morts un peu inexpliquées à ses yeux, elle va comprendre le monde et certaines choses de la vie.
Approfondissons tant qu'à faire le reste de la programmation qui est tout aussi engagée, mais également diverse. Quels réalisateurs et réalisatrices seront présents et présentes ? Quelles œuvres seront présentées ?
Alors, on aura la chance d'avoir Anne Cazenave-Cambé pour le film Love Me Tender. Il y aura aussi Abdella Taïa pour le film Cabo Negro qui sera au TNB samedi.
Qui a écrit beaucoup de livres, en fait, qui est très connu comme auteur. Et c'est un de ses premiers longs métrages, en fait. Il a fait des courts métrages avant. Donc, c'est une des têtes d'affiche.
Voilà, on aura aussi Florent Gouelou qui nous présentera son documentaire Habibi, chanson pour mes amis. Ou encore, bon, vous avez peut-être vu certains, Alice Douard aussi à l'avant-première d'Épreuve d'amour au TNB. Grande chance de l'avoir eu avec nous. Et puis deux réalisateurs de courts-métrages, Younes El-Bakali et puis Frédéric Lavigne. Et peut-être Robin Zinger, un documentariste qui a un très beau film qui passe à l'auditorium qui s'appelle Ultraviolette et le gang des cracheuses de sang. Voilà, il doit venir, on attend impatiemment.
Qu'ils arrivent.
Et dans quel lieu ? Parce que Regard, c'est pas que le TNB. Il y a plusieurs lieux qui...
Non, effectivement, il y a beaucoup de lieux qui nous accompagnent et on en a un de plus cette année. Donc, en fait, il y a le TNB et l'Arvor qui sont deux grands partenaires. L'Arvor nous offre beaucoup de salles cette année. Et puis, il y a le FRAC, en fait, qui est un espace gratuit, qui est important, dans lequel, en fait, vous allez pouvoir trouver des très, très beaux documentaires comme Pédale Rurale, Queer Me, This is Ballroom, avec des associations comme Ballroom Scène de Rennes qui seront là. Et puis cette année l'auditorium des Champs Libres nous a ouvert ses portes, donc les institutions en fait ont été extrêmement bienveillantes, extrêmement ouvertes. Donc, quand on leur a proposé de travailler ensemble, en fait ils ont tout de suite dit oui, et l'année dernière, et en fait ils étaient prêts à recommencer cette année, donc ça c'était vraiment impressionnant.
Et donc comment le comité d'organisation de Regard sélectionne ces films et ces artistes, les lieux également d'ailleurs?
La programmation, c'est d'abord une recherche de films, que ce soit dans les différents festivals de France ou même à l'étranger. Et c'est beaucoup d'heures de visionnage. Et puis après, c'est des discussions pour choisir des films, s'accorder sur un thème éventuellement, selon les films qu'on trouve et qu'on aime.
Et c'est vrai que la particularité du festival, c'est qu'il y a un collectif qui s'est créé autour de la programmation. Donc ça amène aussi des débats, des enjeux de discussion qui ne sont pas toujours faciles, parce qu'on aime ou on n'aime pas un film, il faut expliquer pourquoi, etc. Parfois le défendre. Et en fait, le fait d'avoir une programmation collective, ça fait aussi la richesse de cette sélection. Ce qui n'est pas le cas dans tous les autres festivals où il y a un ou deux programmateurs. Donc on essaye de garder ce collectif-là actif pour le festival.
Et parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'artistes et de films internationaux. Est-ce qu'il y a un pourcentage, une recherche de pourcentage d'artistes internationaux ou alors de thèmes à aborder au moment de la sélection?
C'est plus des coups de cœur de chacun et qui se retrouvent ou qui ne se retrouvent pas selon les films, mais il n'y a pas une recherche de quotas ou de... Non.
Ce qu'on essaye de garder, c'est de la diversité. C'est-à-dire, en fait, il y a des films queer, il y a des films gays, il y a des films lesbiens, il y a des films sur les dragues. Donc, en fait, toute cette richesse de la communauté queer, on essaye de la montrer le plus possible. On n'arrive pas à traiter tous les sujets tellement il y en a. Donc, selon les éditions, ben, ça varie, ça évolue et ça évoluera encore l'année prochaine. Donc, ça, c'est très important pour nous, en fait, de garder cette diversité-là.
Et en parlant de l'année prochaine, pour finir, on l'a souvent mentionné sur ces labs d'ailleurs, mais Iskis fait actuellement face à de lourdes baisses de subventions, au point que l'édition 2026 est peut-être en danger. Comment Regard y réagit? C'est quoi vos solutions pour essayer peut-être de sauver cette édition
Aujourd'hui, Regard est subventionné par la ville de Rennes et la Mission Culture. Et qui ont envie de nous suivre, qui ont envie de continuer. Donc ça, c'est vraiment, ça serait une bonne nouvelle. Mais on aura la réponse, en fait, après le festival et puis en 2026. Mais ils nous soutiennent. La culture queer est quand même très bien posée à Rennes. D'une part, il y a une Pride de 13 à 15 000 personnes. Il y a une communauté avec des associations qui sont très militantes, très présentes, etc. Donc le festival, en fait, il a lieu dans ce contexte-là. Bien sûr, il y a des enjeux financiers, mais en fait, c'est un petit budget. Les lieux nous font aussi des partenariats qui nous permettent d'arranger les choses et de faire au mieux, quoi.
Et parce qu'à une époque où, justement, déjà, on connaît énormément de baisses de subventions dans la culture, vous sentez peut-être que c'est d'autant plus compliqué quand on essaye de mettre en avant la culture queer, d'obtenir des subventions, de faire face à cette crise budgétaire?
Ben, ça serait dans la culture en général, mais c'est vrai qu'on cherche aussi notre autonomie en disant, ben voilà, si vous voulez soutenir le festival, participez aux fêtes, venez au cinéma, participez le plus au festival, parce que tout ça, en fait, ça bénéficie de son rayonnement et de sa consolidation. Et puis la soirée Vilaine Teuf, elle est un peu faite aussi pour subventionner l'année prochaine, pour essayer de trouver une autonomie et de faire moitié-moitié, quoi, moitié subvention, moitié autonomie financière de par la communauté qui nous rejoint pour le festival, qui est large en fait, parce qu'il y a vraiment tous les publics. Il y a des publics queer, mais il y a aussi des hétéros, il y a aussi des jeunes, des plus âgés. Donc vraiment, cette diversité, elle nous fait chaud au cœur, quoi.
Merci énormément Delphine Arnoux et Nadine Patry pour cet entretien riche. Évidemment, on ne peut pas résumer toutes les dates, les lieux, les artistes, les rencontres à venir ici. Pour tous les renseignements sur cette seconde édition de Regard qui se déroule du 10 au 14 décembre, rendez-vous sur le site festival-regard.com.
6h avant minuit.
Le mardi, dans 6h avant minuit, c'est Paravioli, c'est Chronique Fake News. Cette semaine, on se pose une grande question avec Estelle. Est-ce qu'Emmanuel Macron a vraiment un QI de 89?
En effet, Héloïse, on se pose cette question. Et Macron aurait un QI inférieur à la moyenne?
C'est pas vrai.
Et si? Ce test aurait été réalisé quand il a intégré la banque Rothschild. C'est ce qu'affirme une fuite de documents internes ce lundi 1er décembre.
Comment est-ce que cette info a pris autant d'ampleur?
Alors déjà, elle démarre sur X, postée par le compte Loïcia H, bien connue pour relayer la propagande russe et la désinformation. L'influenceuse écrit, je cite, « Test de QI passé par Emmanuel Macron affiche un score de 89, ce qui signifie que le célèbre gorille Coco l'a surpassé de 6 points. De plus, Macron a été diagnostiqué comme souffrant de troubles de la personnalité narcissique. Il semblerait que les mondialistes aient tendance à choisir les individus les plus stupides pour les manipuler. » Un deuxième document affirmerait que les évaluateurs auraient détecté des signes de personnalité narcissique plus. Ensuite, l'infox a été reprise par plusieurs comptes influents du même écosystème pro-russe, comme celui de Eric Archambault ou le compte Trump Fact News. le tout agrémenté d'une question. Emmanuel Macron est-il apte à diriger la France ? Tous ces posts renvoient vers le même article.
Comment savoir si cet article est vrai ou faux ?
Alors pour le savoir, on va décrypter tout ça ensemble.
C'est parti.
Déjà, le test de QI présenté utilise la méthode Welcher. Problème, la version française n'existe que depuis 2011. Donc impossible que Macron l'ait passé en 2008. D'ailleurs, la date 2011 apparaît en bas du cahier de passation qui existe en version libre sur Internet. Autrement dit, n'importe qui peut le remplir. Deuxième incohérence, le site de l'article. Il usurpe l'identité du site d'extrême droite F des Souches en changeant juste une lettre. F des Souches devient FR des Souches. D'autres détails trahissent la supercherie. Le nom de domaine a été créé une semaine avant la publication. Aucune mention légale, les couleurs du logo sont inversées, la page de contact est un modèle en anglais avec les paroles du générique de la série Big Bang Theory.
Et ce n'est pas tout, l'Infox usurpe aussi des identités de personnes physiques, c'est ça ?
Oui, c'est bien ça. L'article incriminé est signé Adrien Baize. En réalité, ce journaliste travaille au Figaro et n'a jamais écrit ce papier. Le psychologue mentionné, Jérôme Bagot, lui, n'existe pas. Il est introuvable dans le répertoire national recensant tous les professionnels de santé. L'adresse de son prétendu cabinet est le siège de Rothschild. En revanche, le numéro RPPS indiqué sur la feuille de route est attribué à un psychiatre du nom de Christophe Bagot.
Pourquoi est-ce que ce type d'infox revient régulièrement ?
Ces techniques sont typiques des modes opératoires informationnels russes comme Storm 1516. Leur objectif, diffuser de la désinformation pro-russe pour semer le doute des scrutins et attaquer les opposants politiques. Le président français est une cible récurrente. Ces campagnes pro-russes cherchent à l'affaiblir alors que la guerre fait rage aux portes de l'Europe, pour écorner le soutien occidental à l'Ukraine. Petite règle d'or, toujours prendre avec des pincettes les publications qui assurent fournir des documents confidentiels et bien vérifier les URL des sites.
Merci beaucoup Estelle pour tous ces conseils et d'avoir remis le vrai du faux à l'endroit.
Avec
plaisir. Je te laisse appuyer sur le bouton du répondeur s'il te plaît, qu'on a un message.
J'appuie de suite. Bip.
Le téléphone.
Allô ? Allô ?
Syllabe, la radio sauvage.
Bah alors, qui est là ce soir ?
Oui, bonsoir. C'est Jean-Louis Brochard. Je vais passer une très bonne édition des Transmusicales cette année, c'était pas mal.
Très bonne édition. Moi, c'est tout Muller. Alors, qu'en dis-tu, Jean-Louis ?
Bah franchement, angine de poitrine, waouh, putain, ce Québec là, c'est
la
incroyable.
La relève, please, oui. Bien sûr, la relève.
Rennes, je t'aime.
Tout du Mans.
Oui, bonjour, je suis le célèbre Ciao, vous me comprendrez, je pense. Et j'ai eu envie de vous rappeler pour vous féliciter, vous êtes une belle équipe et une pensée plus spéciale pour Roman et Lafken que j'avais peut-être oublié l'autre fois. Quand je pensais plus à ma fille. Bisous à tous et bonne continuation, c'est super tout ce que vous faites. Ciao, ciao.
C'est festif.
Il venait d'où ce c'est festif?
Mais ils me font tous. Oh, c'est l'équipe technique qui essaye de m'avoir.
C'est quoi ce délire? Eh ben, ciao. Je vois juste que la seule personne de l'équipe qui n'est toujours pas mentionnée, c'est Bibi, mais c'est pas grave. Laissez-nous un message vocal, je vous redonne le numéro 02 30 96 25 35. Je vous rappelle que notre émission organise une collecte de Noël au bénéfice de deux assos rennaises qui ont besoin de vous. On parle de Cœur Résistant qui propose notamment un soutien alimentaire aux personnes en situation de précarité. Et puis on en a parlé pendant l'interview, ISKIS aussi, centre LGBTI+, de Rennes. Ces deux assos ont besoin de café moulu, thé, sucre, lait, chocolat en poudre, mais aussi de sous-vêtements et de vêtements chauds, surtout pour les hommes en ce qui concerne Cœur Résistant, ainsi que de couvertures et d'oreillers. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi donner des boissons ou des aliments festifs pour le repas de Noël et le réveillon organisé par ISKIS pour ses bénéficiaires, ou encore offrir de quoi cuisiner les repas chauds servis en maraude par Cœur Résistant, à savoir huile végétale, sel, épices, farine, pâte, riz, biscuits, tout ça.
pour donner rendez-vous dans nos locaux entre 10h et 18h en semaine. On se trouve sur le campus Villejean de l'Université Rennes 2, au deuxième étage du bâtiment EREV. La récolte sera transmise aux assos lors de leur passage en studio dans notre émission du jeudi 18 décembre. Merci par avance pour votre générosité. Je sens qu'il y a une bêtise qui veut sortir. Là, allez-y, qu'est-ce qui se passe?
Non, on voulait juste dire à Annie qu'on l'attend aussi dans nos studios.
Ah, Annie.
Pitié.
Pitié, viens.
Des gros bisous, maman Estelle.
Bisous.
Allez, ciao. Merci, Maud, pour la technique. Ciao. Demain, émission spéciale en direct de la péniche au spectacle dans 6 heures en mini. Allez, ciao.
C'est festif.
Si, la radio sauvage.
Et le reptile.
Et 6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe?
Eh ben, il est 6 heures.
Le magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue.
6 heures. Avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs du temps.
6 heures avant minuit. 18h, 19h, sur Syllabe,
la radio sauvage.